Chaud devant, un Saint-Pierre pour la 3, une religieuse pour la 7 et une bouteille de Saint-Émilion pour la 12.
Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
et comme plat principal,
comment dit-on bonjour en grec ?
Salut Marc.
Salut Samuel.
Marc, peux-tu me redire la même chose en grec ?
Quoi ? Te redire quoi en grec ? J'ai encore rien dit.
Si tu m'as dit, salut Samuel.
Et tu veux que je te dise ça en grec ? Eh bien, si ma culture me fait pas trop défaut, ben, je crois que ça se dit qu'en fait ma culture elle me fait défaut.
Calimero.
Calimero, comme le petit poussin qui dit toujours « Oh, c'est pas juste !»
C'est ça, mais ça c'est du grec moderne. Autrefois, à l'époque de Jésus, quand le grec gagnait de l'influence, ça se disait « Kaere ».
Kaere ? Ça veut dire quoi ?
Eh bien, ça veut dire « Salut, bonjour ». Enfin, plus précisément, « Réjouis-toi, réjouis-toi ».
Réjouis-toi comme « Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ».
Oui, exactement. L'ange Gabriel ne demande pas spécialement à Marie de se réjouir. Il la salue, voilà tout. C'est pourquoi traduire « Je vous salue Marie » est tout à fait exact.
Et l'ange Gabriel, il parlait grec ?
Ça, j'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est que les textes des évangiles que nous avons sont en grec. Peut-être que l'ange Gabriel s'est adressé à Marie en hébreu, la langue liturgique de l'époque. Ou encore, plus probablement, en araméen, la langue populaire des juifs de l'époque.
Oula, attends un peu. Les gens parlaient combien de langues à l'époque ?
Le peuple parlait l'araméen. Mais lorsque les juifs allaient prier à la synagogue, les textes étaient lus en hébreu, la langue sacrée des juifs.
Ouais, on avait déjà vu ça. Et d'ailleurs, ils ont dû se mettre à traduire la Bible de l'hébreu vers le grec, car de plus en plus de personnes parlaient grec.
Voilà. Et à l'époque de Jésus, lorsqu'on lisait un texte en hébreu à la synagogue, on le lisait aussi en araméen, après, pour le traduire. Et ces textes en araméen sont appelés les targoums.
Les targoums ? Qu'est-ce que c'est que les targoums ? Des textes secrets cachés par l'église ?
Ah, Marc, tu vas pas recommencer. Les targoums, c'est... Bien, je te propose de demander à quelqu'un qui est mieux renseigné que moi. Pierre Perrier, l'expert auquel nous avons déjà fait appel dans d'autres émissions.
À l'époque de Jésus, on parle beaucoup de targoum, on utilise des targoums. Qu'est-ce que c'est qu'un targoum ?
Ah, alors, on traduisait en simultané, on faisait la traduction en simultané, c'est-à-dire que comme dans une conférence internationale, celui qui parle, il parle une phrase pas trop longue pour que le traducteur puisse la redire derrière. En fait, très souvent, il faisait des traductions pratiquement, c'était pas mot à mot, mais c'est une langue assez courte en araméen, donc on a le sujet-verbe complément peut-être tenir en très peu de syllabes, en très peu de pieds on dirait, en beaucoup moins que 12 pieds, en général 8 ou 9 pieds. Et ce qui veut dire c'est un peu court, donc souvent on traduit plus largement. Mais pour bien comprendre, et étant conscient que la traduction trahit, en fait, on fait une traduction explicante. Ce qui fait que les targoumines, hein, on dit les targoums de façon simple, les targoums, c'est-à-dire, ça veut dire traduction, hein, le turgama qui est la traduction, les targoums sont en fait des traductions explicantes. Et explicantes pour le moment particulier. Ce qui fait qu'on les a conservées tardivement, parce qu'elles étaient, au temps de Jésus, apparemment, d'après ce qu'on sait, elles étaient interdites, c'est-à-dire qu'on n'autorisait pas leur mise par écrit. Par contre, on les conservait oralement, puisque les gens ne comprenaient pas l'hébreu, la quasi-totalité des gens ne comprenaient pas l'hébreu, et donc on traduisait. Donc le texte était souvent lu directement en araméen par celui qui savait, qui connaissait bien l'hébreu et l'araméen, et directement il donnait le targoum. Ou alors, très souvent, on savait par cœur, quand il y avait quelqu'un de plus cultivé, on savait par cœur et le texte et son targoum, et les deux se récitaient par cœur l'un après l'autre. Et ça donne même lieu à des erreurs qui sont très reconnaissables, parce que ça commence déjà à être un petit sermon, souvent. Par exemple, au temps de Jésus, chaque fois que dans l'hébreu on dit que Dieu parle, on le retraduit en disant que la parole de Dieu, le mémra de Dieu, parle. Et en disant ça, en fait, on précise quelque chose qui est la Trinité. C'est-à-dire qu'au temps de Jésus dans les targoums, on trouve dans les targoums la Trinité. Dieu parle, agit, inspire, suivant ce qu'il est, c'est-à-dire... Il crée le Père, il parle, le Fils, il inspire, c'est l'Esprit, et à chaque fois, on utilise effectivement dans le Targoum un mot spécial qui est en araméen, qui n'était pas dans l'hébreu, et qui décline Dieu en trois personnes. Donc la Trinité était pratiquée tous les jours à la synagogue, était entendue tous les jours à la synagogue. Jésus n'a pas de vocabulaire proprement nouveau, il est toujours en train de reprendre un vocabulaire qui est déjà compris un peu. Parce que dans une langue, si vous ne pouvez pas introduire un mot nouveau, les gens ne comprendront pas. Donc il faut qu'il soit déjà porté par des éléments concrets et des traditions concrètes. Et donc le Memra, qui est la parole de Dieu parlante, le Roi, qui est l'Esprit de Dieu parlant, le Père, là-bas, ça c'est déjà employé dans les Targums, au contraire de l'hébreu. Donc on est dans cette, de façon, au temps de Jésus, on est dans cette espèce de phase intermédiaire où on peut bénéficier à la fois de la rigueur des textes transmis dans une langue fixée et en même temps de la souplesse de l'oral qui permet de donner une explication en utilisant des mots assez savoureux pour que les gens les emploient tous les jours et comprennent bien le sens que ça peut avoir. D'où l'intérêt de ce Targum.
Ah, je comprends. Non seulement les Targums sont intéressants pour les traductions, mais aussi pour ressentir l'évolution de la réflexion théologique de l'époque.
Effectivement. Il serait très intéressant de se plonger dans certains textes targumiques. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi de pointer toute la difficulté d'une traduction. Aujourd'hui, il existe de nombreuses traductions de la Bible, si bien que parfois le lecteur s'y perd.
C'est vrai, entre la traduction œcuménique, la traduction catholique de l'école de Jérusalem, celle en français courant ou encore celle de Louis II, il y a parfois de grandes différences, et puis laquelle est la plus fiable?
C'est une difficulté qu'il ne faut pas cacher. Une traduction, ça reste toujours une traduction, et toute traduction est une trahison, car on est obligé de s'éloigner de nombreux sens du texte. Mais c'est intéressant et peut-être rassurant de se dire qu'à l'époque de Jésus, ces problèmes existaient déjà.
Alors si on estime que Jésus parlait araméen, que ses propos nous sont rapportés en grec et que nos bibles sont traduites en français, il y a trois fois plus de chances de s'éloigner de la signification primordiale.
C'est certain. Mais il s'agit simplement d'en être conscient. Après, on ne peut pas faire le procès des traducteurs. Leur tâche est vraiment délicate. Mais ça peut être intéressant de se pencher sur certains mots exemplaires.
Comme quoi ?
On va voir deux exemples. D'abord l'expression « homme de peu de foi ».
Il faut savoir que par rapport au grec, l'araméen qu'utilise Jésus, le syro-chaldaïque comme on disait autrefois, est une langue qui est très englobante, très imagée, et donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir toujours le contexte d'un texte et d'un mot pour arriver à être sûr d'en avoir toute la richesse. Mais par contre, le grec, qui est une langue beaucoup plus précise, oblige à des précisions qui vont peut-être trop loin ou qui correspondent à des précisions qui égarent un peu le sens. Alors je vous donne un exemple. Vous avez la tempête apaisée. Et dans la tempête apaisée, Jésus calme les disciples en disant « Pourquoi avez-vous eu peur ?»« Homme, dit le texte grec, oligopisti, de petite foi, Sir John Dark traduisait « mini-croyant »,« ô homme de peu de foi » avons-nous dans nos traductions. » Or, le terme employé en araméen est complètement différent, parce qu'il dit « Zora Eima Enuta », c'est-à-dire « vous qui êtes des cadets dans la foi ». Donc, dans un cas, c'est un espèce de jugement, vous manquez de foi, et donc tous ceux qui manquent de foi, eh bien, ils ne peuvent pas comprendre qu'il faut être dans la paix, même s'il y a la tempête, parce que le Seigneur est avec nous, et donc il va calmer la tempête. Ils ne peuvent pas comprendre, donc bon, ils n'ont pas compris. Et dans l'autre cas, c'est « vous êtes en chemin de comprendre, vous êtes des cadets dans la foi, il va falloir que vous continuez à grandir pour arriver au moment où la paix pourra passer au-dessus de la tempête. Hein » Voilà, ça c'est un exemple typique.
Voyons maintenant un exemple sur le terme « frère de Jésus ».
Alors il y a des exemples qui traînent partout dans la presse parce que les gens n'ont pas bien compris comment fonctionnait ce monde où la famille a un rôle important, la tribu a un rôle important et donc les affinités de sang sont définies à partir du troisième degré, ce qu'on dit le troisième degré en généalogie, c'est-à-dire qu'on appelle frères et sœurs tous ceux qui font partie du même sang immédiat. Dans une même maison. Donc ça comprend forcément les cousins germains et au-delà. Et d'ailleurs c'est un vrai problème en français parce que c'était vrai aussi en français ancien, c'était vrai dans le celte, où de la même façon on ne savait pas exprimer les cousins germains, et c'est pour ça qu'on a rajouté le terme de germain derrière. Donc pourquoi cousins, c'était ceux qui étaient du même sang, mais qui étaient à l'extérieur de la famille, à l'extérieur de la maison, de l'immédiateté, des rapports, etc. Donc c'était des gens éloignés. Par contre, dès qu'on était dans, moi typiquement, dans ma montagne, quand j'allais voir une certaine cousine, elle me disait frère. Et elle me disait frère en patois, en franco-provençal. Et elle me disait frère parce que c'est, il n'y avait pas d'autre mot. Il n'y avait pas le mot de cousin germain. Il y avait le mot de cousin, mais cousin c'était très loin. Donc il y a, y a quelque chose très souvent qui est des petites nuances de sens quand on traduit et qui malheureusement quand on les pousse à l'extrême vont finir par donner des faux sens très profonds quoi, sur ce que le Seigneur veut dire ou les gens qui veulent fabriquer des généalogies avec beaucoup de soin en confondant le terme de cousin germain qui n'existe pas en araméen avec le terme de frère qui lui a un sens plus large.
Qu'est-ce que tu en penses ?
C'est intéressant. C'est sûr qu'en fonction des cultures, les mots n'ont pas du tout le même sens.
Oui, et aussi, les langues n'ont pas la même manière de décrire les choses.
Alors, il y a beaucoup de mots comme ça qui ont des sens très larges en araméen et qu'il faut cerner à partir du concept. Et la traduction est en général une traduction beaucoup trop précise en grec. Elle l'est un peu moins en latin, qui est une langue plus large. Et elle le serait un peu moins si en français on prenait les mots les plus simples. Mais si on fait un peu d'intellectualisme et qu'on part du grec et qu'on prend le mot intellectuel français, parce que vous savez qu'en français il y a des mots d'origine celte qui sont en général plus courts et puis des mots plus longs et qui viennent du latin et surtout du grec, et ces mots ont la même densité de précision que les mots grecs. Et ça peut gêner le sens. Souvent ça l'aide parce que la précision c'est aussi important.
Il y aurait bien d'autres exemples à évoquer pour montrer la difficulté du travail de traduction. Mais c'est déjà une approche. Et pour finir, j'ai une autre question pour toi, Marc.
Tu vas me demander comment on dit au revoir en grec, c'est ça ?
Comment t'as deviné ?
Je sais pas, une intuition.
C'était Moïse en entrée,
Jésus au dessert,
une émission dans la dynamique du Festival de la Parole,
présentée par Samuel et Marc Landon.
Plat du jour de la semaine prochaine,
fruits et légumes au Jardin d'Éden.